La parole au poditeur. Le dossier de Ni Pénu.
Yeah.
Et la récré.
Ouais.
On va tout bruiter à la bouche.
La récré.
Ouais. On n'a plus de budget, c'est la fin de la saison, il n'y a plus de budget.
Coup de cœur, coup de gamme.
Ni Pénu.
Ni Pénu. Le podcast.
Le podcast.
École.
Éducation.
Numérique. Ni Pénu.
Ni Pénu.
Ni Pénu.
Bienvenue dans Ni Pénu. Ni Pénu épisode 120. Un épisode spécial été, ou pas tant que ça d'ailleurs. En tout cas, vous l'écoutez en plein milieu de l'été si vous êtes en métropole française, pour le dire comme ça. Un épisode un peu particulier, on va vous en dire quelques mots. Mais d'abord, je vais dire bonjour à tout ce joli petit monde qui est là. Et je vais commencer, tiens, à tout seigneur, tout honneur. Salut Jean-Noël, j'ai toujours envie de dire Jean-Noël, pardon. Salut Jean.
Ah mais oui, mais tu n'es pas le seul. Salut Régis, est-ce que ça va bien? Moi ça va très bien, je suis très content d'être là. C'est l'été, je suis en vacances et je suis en forme et j'ai un peu de temps. Donc c'est, voilà, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon Ni Pénu.
Ah, carrément, comme dirait celui que je vois à ta gauche sur mon écran, une sacrée pêche. Toi tu as la pêche Fabien?
Salut Régis, salut Jean Fibé, j'ai la pêche et puis je n'en dirai pas plus histoire de resserrer le format de cette émission Régis.
Oh bravo, quel professionnel. Salut Jean Fibé.
Et salut Régis, écoute, je serai tout aussi concis que mon compère à ma gauche, j'ai la pêche, tout va bien.
Il y a un sacré micro.
Ouais, il a à l'image, vous l'entendez au son mais nous on le voit à l'image, splendide. Donc une émission, alors Fabien disait resserrée, enfin en tout cas on l'espère. Au sommaire de cette émission, en tout cas vous allez retrouver quatre chroniques en quelque chose comme moins de 5 minutes, suivies à chacune d'une discussion débat. Donc une émission d'été, mais pas tant que ça, hein, puisqu'elle sera un petit peu, vous allez l'entendre, en forme de recadrage autour du numérique éducatif, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais,
Fabien.
Le numérique éducatif qui va en prendre plein sa face ce soir, Régis. Peut-être en commençant par ta chronique, ta rubrique à toi, où il sera question, il me semble, d'Open Badge. Open Badge pour lesquels il me semble que tout le monde n'est pas si open que ça, mais tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Ensuite, on aura une chronique pédagogique en forme d'édito par Jean qui nous dira pourquoi il n'aime pas trop les logiciels libres. Tiens, c'est surprenant et on a vraiment envie de l'entendre sur cette question. Ensuite, eh bien, ça sera votre serviteur, les amis, qui arrivera avec, une fois n'étant pas coutume, une rubrique institutionnelle. Et puis, moi, je vais questionner le questionnaire sur les états généraux du numérique. Et puis, on filera the last but not the least. Hein. Vous le savez que tous les trois, nous ne sommes que la première partie de Jean-Philippe Maître. Donc, ce sera sa rubrique
arrête, position numéro 4
qu'on a âprement joué en Shifumi hein, pendant au moins 25 minutes avant le début de cette émission. Et Jean-Philippe nous proposera d'aller vers un mieux numérique plutôt qu'un plus numérique hein, du côté de la recherche. Et puis, tout ça, ça sera entrecoupé. Je vois déjà, j'entends déjà l'hystérie collective des poditeurs qui nous disaient « cette récré de papa, à quoi tu joues ?» Eh bien, elle sera bien là hein, pour scinder ces quatre dossiers. Et ce sera une rubrique qui va sentir bon la plateforme 8 bits comme je les aime. Et c'est pas fini parce qu'on terminera avec nos traditionnels coup de cœur, coup de gueule. Il y aura un jeu Ni Pénu. On a encore envie de vous abreuver de littérature sur la pédagogie et l'ingénierie pédagogique ce soir, pour être plus précis. Et puis, restez jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on terminera avec une petite surprise en mode émotion, pardon. C'est difficile, en mode émotion pour cette dernière émission studio de la saison, Régis.
Oh, quelle belle présentation du sommaire. Merci Fabien. Je vous propose, pour qu'on tienne notre timing, qu'on file tout de suite vers la parole au poditeur.
La parole au poditeur.
La parole au poditeur.
La parole au poditeur.
Alors, parole au poditeur, je me lance avec le message d'Isabelle Watrinet, alias Tutonneau de Buissonnière dans sa bio, qui a répondu au jeu Ni Pénu de l'épisode précédent où on lui demandait on demandait à ceux qui avaient envie de gagner le dernier ouvrage de Bucheton, Les gestes professionnels dans la classe, ce que signifiaient les initiales, le sigle MMA. Et bravo à elle qui a trouvé, c'était difficile, il faut le dire, modèle de multi-agenda et qui nous précise très bon épisode, même s'il a duré un peu. Mais mon jardin est bien désherbé. Tiens, encore quelqu'un qui s'occupe de son jardin en écoutant Nipédu. Je pense que moi, ça me va très bien.
Ah, je trouve ça cool. Un peu pour les mains, un peu pour la tête. Mmh. Parfait.
Elle cultive son jardin, quoi.
Bien joué. À vous, les garçons.
Ouais, mais du coup, avec un sens de lecture un peu aléatoire, je m'y colle, si vous voulez bien, les garçons, avec un tweet qui n'est pas si récent que ça, mais il est passé entre les mailles du filet de Régis. Alors, c'est un compte Twitter que vous suivez certainement parce qu'on est très, très, très nombreux à suivre le compte de @IsaPhil. Prof ASH, Isabelle Philippot, parce que moi je la connais bien, j'ai fait mes premières armes dans l'ASH, dans l'Académie de Créteil, à ses côtés, et qui nous signale, ou qui vous signale peut-être dans sa veille toujours aussi rigoureuse, un épisode 84 qui s'appelait l'éphémètre, et pour cause il s'appelait l'éphémètre, parce qu'on y parle, de la définition de cet éphémètre, mais aussi c'était de mémoire l'épisode où on accueille Jean-Phi pour la première fois. Ça nous rajeunit pas, ça, Jean-Phi?
Et non. C'est vrai que c'était déjà il y a un petit moment, en fait. Et puis, c'était rigolo de voir ce petit tweet revenir et rappeler à mon bon souvenir cet épisode 84 qui était pour moi le baptême.
Le baptême de Monsieur M, du coup, pour la référence.
C'est ça.
Et ensuite, on a donc un tweet de CB2 qui nous dit « @Nipédu encore une fois au cœur de l'actu » en nous parlant de l'épisode 118, hein, celui qui s'appelait « Déconfinement ». Au cœur de l'actu des écoles et lycées, bravo pour cet épisode qui donne envie de revenir dans son établissement pour parler, partager, progresser.
Et alors, je file vers le dernier petit tweet. Alors, j'ai su hors antenne que si je lisais ce tweet, un homme risquait de chausser ses baskets et d'aller courir autour d'un lac. Alors, je suis ravi de provoquer cette chaîne de cause à effet complètement inattendue. Je lis donc ce tweet. Je laisserai le tweetonaute se reconnaître. Un cerisier, un hamac et le dernier Nipédu dans les écouteurs. Que demander de plus? Je te dirai merci, Bruno Mallet. Et à tes baskets.
Et je dirais qu'il y a une belle erreur d'orthographe dans le tweet, je viens de réaliser. Donc Bruno, tu sais ce
que... Ça m'étonnerait parce que Bruno Mallet ne fait jamais d'erreur d'orthographe.
Ah, alors c'est pas le même.
Ah, alors si c'est pas le même, on peut lui dire de ranger ses chaussures. Hein. La course n'est pas obligatoire. Ouais.
Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans la première partie de l'émission.
Le dossier de Nipédu.
Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
Et donc, première partie de l'émission, eh bien, c'est moi qui m'y colle avec cette première chronique. Et j'ai intitulé cette chronique « Cacher cet open badge que je ne saurais voir » ou « Cracher sur cet open badge que je ne saurais voir » avec des petites... des crochets, des parenthèses. Alors non, je ne vais pas revenir sur la récente polémique des open badges. Il faut dire que le timing et la forme que ça a pris ont complètement noyauté tout débat serein, donc je ne reviens pas là-dessus. Pour ça, vous irez lire les articles qu'on va vous partager dans les notes de l'émission. Moi, je vais commencer par rappeler ce que sont les open badges pour partir sur une base de discussion commune. Donc les open badges, c'est un outil de reconnaissance, de traçage et de valorisation de compétences informelles, non formelle et peut-être aussi formelle. On pourra faire le point sur ça dans notre discussion tout à l'heure. Très concrètement, un open badge, c'est une image numérique sécurisée qui contient des infos vérifiables, donc sous forme de métadonnées. Donc elle contient l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise, la communauté, l'institution, voire l'individu qui a créé le badge. La description du badge, son nom, les critères d'attribution, le cadre dans lequel il s'inscrit. La date de validité et d'échéance. Parce que contrairement à un diplôme, un badge, un open badge peut avoir une durée de vie limitée. Le récepteur, c'est-à-dire celui à qui appartient le badge et dont les compétences sont reconnues par le badge. L'épreuve d'obtention, qui peuvent être, par exemple, pour le plus simple, la participation à un événement. Et on peut aller de plus en plus loin, c'est-à-dire par exemple fournir les documents qu'on a produits pour une formation. Et enfin, l'endosseur, c'est-à-dire les partenaires, les pairs qui reconnaissent la valeur et la validité du badge. Souvent, les badges sont classés par niveau. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Par exemple, si on imagine un badge qui reconnaîtrait les compétences liées à la participation à un webinaire, on pourrait dire que le niveau 1, c'est la participation à un webinaire. Le niveau 2 serait la co-construction d'un webinaire. Le niveau 3 serait la mise en place, l'animation d'un webinaire. Pour produire et manipuler ces open batch, ça se fait en deux temps et avec deux outils distincts, ce qui, philosophiquement en tout cas, pourrait déjà poser quelques questions pour en reparler. Un outil de création de badge, par exemple Open Badge Factory, qui est payant, qui assure l'infalsifiabilité, l'interopérabilité des badges qui sont produits sur un standard ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui, tout le monde peut potentiellement les utiliser. Et un outil de gestion de ces badges, par exemple Open Badge Passport ou Badger, un outil gratuit là, qu'on appelle aussi souvent sac à dos. C'est une espèce de portfolio qui permet de stocker ses badges, de les afficher, de les partager, de les mettre en réseau si on a envie avec d'autres possesseurs de badges. Voilà sur les éléments techniques. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous renvoie à la chronique dans IP du 111 de Fabien qui s'intitulait « J'ai testé pour vous les open badges ». Moi, je voulais revenir un petit peu aux bases de la philosophie, disons, des open badges, et notamment un article qui revient très régulièrement de Serge Ravet, qui date de 2018. Alors, Serge Ravet, c'est le président de l'Open Recognition Alliance. Son article, il s'appelle « Réflexion sur la genèse des open badges ». Et je vais proposer dans cette petite chronique une hypothèse que je soumets à votre sagacité. Si je devais la résumer en une phrase, ce serait celle-ci. La philosophie des open badges est incompatible avec l'éducation nationale en tant que distributeur ou endosseur d'open badges, sauf à vouloir révolutionner le système. Ça, ce serait l'hypothèse que moi, je soumettrais. En lisant cet article, hein, je vois une incompatibilité de nature entre un outil, que sont les open badges, qui est pensé comme horizontal, volontariste, symétrique, et qui valorise plutôt le non-formel et l'informel, et de l'autre côté, un système, l'éducation nationale, qui est hiérarchique, curriculaire, asymétrique, et qui valorise que le formel. Je me demande pourquoi l'éducation nationale, elle ne laisserait pas justement la création des open badges à d'autres, sans les ignorer, mais sans vouloir en tout cas elle-même les produire et les distribuer. Donc si je cite Serge Ravet, j'ouvre les guillemets, « Pour utiliser un vocabulaire piagétien, on pourrait décrire deux pôles dans les usages des badges, l'assimilation et l'accommodation. Alors du côté assimilation, les badges sont utilisés pour faire ce qu'on faisait déjà. Ils sont assimilés par le système éducatif en place comme un système de micro-crédit, une enveloppe moderne pour afficher les résultats d'un processus de reconnaissance formelle. L'idée que ça fait naître chez moi, c'est que dans ce cas, on n'est plus tellement dans l'esprit des open badges. De l'autre côté, il y a l'accommodation. Je recite, les pratiques sont transformées par l'arrivée de ce nouvel objet. Des choses qui semblaient impossibles ou incompréhensibles deviennent à la fois possibles et compréhensibles. Par exemple, rendre visibles et valoriser les reconnaissances informelles. Là, ce que ça m'évoque, c'est dans ce cas, on est trop éloigné sans doute de la culture actuelle de l'éducation nationale. Et pour prendre juste un exemple d'un article que j'ai lu aujourd'hui, il y en a qui vont très loin, c'est assez violent, et qui disent, je cite, « Ainsi donc, les open badges ne sont pas une lubie de certains recteurs, ils ne sont pas un gadget ou un colifichet, ils sont une arme de guerre. Et c'est donc comme tel qu'il faut lutter contre eux. » Je cite un dernier passage de Serge Ravet. « Dans sa forme la moins intéressante, l'assimilation peut être un moyen de prétendre innover en ne changeant que la surface des choses, une sorte de botox pour changer l'image de l'éducation formelle. » Mais alors que l'assimilation des badges par le système formel pourrait être sans conséquences réellement néfastes, la facilité de leur mise en œuvre pourrait très bien avoir des effets délétères sur les environnements proches, tels que ceux des champs où l'on cultive des OGM en pleine nature sur leur environnement. Moi, ce que je lis en creux, c'est que certains promoteurs des open badges ne veulent pas de leur institutionnalisation, en tout cas pas sous cette forme. Donc au final, je me demande si tout le monde n'est pas finalement content avec cette polémique, c'est-à-dire les anti-open badge de l'éducation nationale, qui ne veulent pas que ça rentre, et les pro-open badge, disons, hors institution, qui ne pensent pas que ça puisse rentrer dans le système institutionnel. En gros, hein, je résumerai ça par chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés, les moutons électroniques pour le coup. Et je retrouve là, et je finis là-dessus, une question qui me taraude depuis un bon moment sur un autre terrain, mais toujours sur le côté institutionnalisation de pratiques, a priori non institutionnelles. Je pense à la question des collectifs enseignants que de plus en plus on voudrait assimiler ou accommoder dans l'institution. Et ça me paraît incompatible, mais c'est peut-être une autre histoire.
Joli, joli. Moi, je veux bien prendre la parole, les garçons, tout de suite. Et cette première remarque, elle s'adresse à toi, Régis, c'est que c'est rigolo parce qu'il aura fallu attendre peut-être 3 minutes 30 pour que tu désignes avec un pronom, un adjectif démonstratif, tu dis cette polémique, alors qu'à aucun moment on a de référent à ça, on ne sait pas de quelle polémique tu parles. Peut-être tellement ça semble évident pour toi de la polémique de laquelle on parle, donc est-ce que tu peux en toucher juste te rappeler à quelle polémique tu fais allusion ?
Ouais, tout à fait, un mot, hein. Je me dis que bon, ceux qui écoutent Nipédu, ils ont c'est presque impossible d'être passé à côté, c'est que suite au confinement, il y a les Danes de Montpellier et de Nice, si je ne me trompe pas, qui ont proposé à leurs enseignants, je vais le dire comme ça, d'aller réclamer leur open badge sur les compétences qu'ils auraient pu développer autour des usages numériques, notamment pendant le confinement. Et il y a eu une vraie levée de bouclier, pour le dire comme ça, parce que à la fois le timing était très très mauvais suite au confinement, où il y avait peut-être d'autres priorités, et sur la forme, puisque ce que les enseignants réclament, c'est plutôt des avancements de carrière, du salaire, plutôt que ce qu'ils ont appelé, en tout cas pour ceux qui étaient très anti, des espèces de médailles en chocolat derrière ces open badges.
Ouais, et puis je pense que, enfin, si je peux me permettre de rebondir, les garçons, je pense qu'en plus, moi j'aurais tendance à dire que ce côté médaille en chocolat dont tu parles est d'autant plus renforcé par le fait que on peut quand même, moi ne serait-ce que sur le principe, questionner un peu la légitimité de ces badges. Tu vois, le simple fait de dire que ce serait pour reconnaître des compétences informelles ou non formelles, tu vois, en essence même dans le mot qu'on utilise, comment quelque chose qui est informel ou non formel peut être formalisé, enfin tu vois, par essence même, enfin tu vois, ça pose le défi de se dire, on en revient sur ces histoires de compétences transversales, de plein de choses en fait, où on a une intuition de quelque chose, mais c'est hyper dur de lui donner un caractère concret. En fait, moi, quand j'entends parler d'open badge, la première question que je me dis, c'est qu'est-ce que ça vient vraiment reconnaître concrètement, et est-ce qu'on n'est pas un peu dans quelque chose, alors on n'est plus dans la médaille en chocolat, mais est-ce que c'est pas un peu du flan aussi? Enfin, moi, j'avoue que j'ai ce côté-là de dire quelle est la légitimité de cette espèce de label qu'on va venir poser sur quelque chose qui reste un contenu assez flou, quoi, finalement.
Bah moi j'irais même encore plus loin que ça, parce que depuis que j'entends parler des open badge, alors j'ai la même réflexion que toi, Jean-Phi, mais en plus le premier mot qui me vient à l'esprit, mais c'est pourquoi est-ce que moi je connais mes compétences, avoir un badge comme ça, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Rien, je connais mes compétences. Maintenant, si quelqu'un veut reconnaître mes compétences par rapport à ces badges, il va falloir que lui ou elle connaisse ce principe d'open badge, et qu'est-ce que ça va concrètement apporter? Est-ce que ça va pas plutôt faire perdre du temps de chercher des badges, etc., pour je sais pas, peut-être monter une équipe de compétences pour un projet particulier, que sais-je, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment, oui, une plus-value, quoi? Pourquoi?
Ben, moi, encore une fois, si l'institution voulait s'emparer de ces outils-là, je pense que ce qui pourrait être intéressant, parce qu'on sait que l'institution réfléchit beaucoup à la façon d'optimiser son dispositif de formation, ben, c'est quelque chose que moi, j'ai pu déjà dire au micro de Nipédu, c'est qu'elle pourrait avoir toute une série d'opérateurs publics ou privés de formation qui seraient eux-mêmes dans de la distribution d'open badge, et plutôt que d'avoir des formations qui sont contraintes ou qui sont difficilement accessibles, puisque on n'a pas souvent l'information qui arrive jusqu'à nous parce que les inscriptions sont vite bouclées. Moi, je pense à certaines expériences douloureuses sur Gaïa, par exemple. Là, à ce moment-là, on a une délivrance d'open badge qui vient. Et encore une fois, là, je pense que les tenants de l'open badge diraient mais non, parce que ça, tu peux très bien le valider autrement que par un open badge. Moi, j'en reviens au début du débat en disant que à partir du moment où on a un acteur institutionnel et des agents de cette même institution qui peuvent être valorisés dans leur action par d'autres façons, que ce soit de la promotion, que ce soit de la rémunération supplémentaire, que ce soit, c'est vrai que c'est un peu malvenu et que je comprends le braquage des collègues. Maintenant, je sais qu'il y a eu aussi certains messages de la part d'autres collègues qui disaient allez-y mollo quand même, parce qu'on voit que ce sont deux Danes et du coup ce sont des collègues des Danes qui ont certainement à un moment pensé bien faire avec ça. Moi, je questionne plutôt la chaîne de validation du projet Open Badge. C'est-à-dire que entre les collègues chargés de mission dans les Danes qui ont eu l'idée d'émettre ces badges, et puis après, je ne sais pas, un Dan, un recteur qui a validé le projet et la mise en œuvre, c'est plutôt, j'aimerais bien être la petite souris qui vient regarder à quel moment la chaîne de décision a dysfonctionné, ou en tout cas à quel moment la bonne personne ne s'est pas dit, à mon avis, là, ça va faire collision.
Je reviens sur l'hypothèse, moi, c'est pas tant que les open badges ne seraient pas faits ou pas applicable dans le monde de l'éducation, c'est plus que l'éducation nationale soit endosseur ou distributeur de ces badges. C'est-à-dire que le système éducatif est totalement asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant, entre guillemets, réclame son open badge. Et on connaît la posture à la fois d'humilité des profs, pour le dire que comme ça, mais aller réclamer quelque chose, c'est compliqué, quoi. Et ça, je trouve que... Enfin, je comprends que ça ait du mal à passer. Déjà, premier point. Ouais, Jean-Philippe.
Non, mais c'était juste, du coup, pour essayer de synthétiser. En gros, si je comprends bien, là, on a soulevé, genre, 3 points. Il y a le point du principe même de l'open badge qui est déjà potentiellement discutable. Et le deuxième point, ce serait le fait que l'éducation nationale puisse en reconnaître, enfin les reconnaître. Et puis la troisième, ce serait encore discuter le fait que l'éducation nationale en soit producteur slash émetteur. En gros, c'est un peu ça les 3 points qu'on a soulevés, si je dois résumer.
Ouais, pour moi, c'est exact. C'est un bon résumé.
Et bah, du coup, à chaque poditeur de se faire son avis sur cette question, n'est-ce pas, les garçons?
Oui, c'est... je pense que c'est exactement l'idée. Hein.
Et de les partager en commentaire sur les réseaux sociaux.
Exactement,
pour en discuter.
J'allais faire la même proposition. Ouais.
Bien joué, donc n'hésitez pas. Et puis, ça nous permet de clore en beauté, en tout cas, cette première chronique. Et je vous propose qu'on passe... du coq à l'âne, j'ai envie de dire, mais pas tant que ça, à la suivante, et on va sur le terrain de Jean.
Productivité.
Ah, donc, le logiciel libre, on connaît tous LibreOffice, hein, qu'on nous a poussé, on peut même dire forcé à utiliser parce qu'il est gratuit et qu'il est surtout très important de privilégier ses initiatives communautaires. Mais bon, c'est surtout que c'est gratuit. Car oui, pas de doute possible, quoi qu'en disent les fervents défenseurs du logiciel libre, les logiciels commerciaux sont bien mieux optimisés et efficaces que leur pendant gratuit. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Néanmoins, on en discutera après. Néanmoins, l'administration française nous pousse à privilégier le libre. Et il y a quand même une grosse contradiction parce que l'administration, elle utilise encore la suite Office. Hors de question d'utiliser ce truc pourri qui ne lit pas tout et qui plante de temps en temps. Fin de citation. Et je ne parle là que du cas très simple, hein, des suites bureautiques. Alors quoi? C'est quoi la solution? Moi, j'ai des collègues qui me disent « Ok Jean, t'es bien gentil, mais là ton logiciel c'est un peu la croix et la bannière. » Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Plutôt que de nous imposer des solutions gratuites, eh bien nous avons le choix. Oui, aujourd'hui on a le choix, mais pour ça il faut payer. Attention, là, le mot est lâché. Et là, on touche la corde sensible. Nous avons biberonné depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans les collègues avec des solutions gratuites. Et aujourd'hui, ces derniers ne voient pas pourquoi, maintenant, ils devraient payer pour avoir des outils pour travailler. Et c'est bien là que la culture française du fonctionnaire d'État est ancrée. Je fais souvent ce petit laïus aux collègues qui râlent un peu trop sur les machines de l'établissement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Une machine d'établissement, c'est une machine impersonnelle qui n'est pas gérée par vous. Une machine personnelle, vous l'avez achetée, elle a grandi avec vous et vous y avez vos habitudes, vos outils perso. Alors oui, ça coûte plus cher, mais on y gagne en confort d'utilisation. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Un bon logiciel, ça s'achète, parce qu'il faut bien autre chose que de la passion pour faire vivre et évoluer un logiciel. On peut tout à fait se contenter du gratuit, hein, c'est très bien, mais à ce moment-là, il ne faut pas forcément non plus demander la lune. Autre argument, dernier argument, hein, si un logiciel ne vous plaît pas tout à fait, que vous voudriez qu'il ait telle ou telle fonction, mais tout en restant gratuit, bien entendu, eh bien, alors apprenez à coder et ajoutez vous-même ces fonctions. Ah, mais ça demande du temps. Du temps que vous n'avez pas forcément parce que ce temps, il ne fait pas partie de votre temps qui est rémunéré. Eh bien, pour le monde du libre, en fait, c'est pareil. À un moment, quand on veut quelque chose, il faut y investir autre chose. Donc, à vous tous qui râlez souvent contre l'informatique parce que ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez, sachez que malheureusement, dans ce bas monde, on n'a rien sans rien, que les développeurs de logiciels libres sont des acharnés bénévoles et que nous, eh bien, il faut prendre nos décisions en connaissance de cause. Voilà, tout ça pour dire que acheter des logiciels de sociétés privées, c'est pas sale. Et que souvent, le RGPD, il a bon dos pour pouvoir faire dire non quand on voudrait bien utiliser une suite Google ou Microsoft au sein d'un établissement. Voilà, c'était mon petit édito coup de gueule sur pourquoi j'aime pas forcément le logiciel libre, même si c'est très bien. Est-ce que, du coup, Fabien, tu boues.
Mais non, mais les garçons, mais parce que vous me connaissez. Enfin, je crois que c'est le coup de gueule que j'ai poussé à... C'est comme si cet édito, tu l'avais écrit pour moi et tu savais que derrière, j'allais remettre une couche sur...
Mais même pas.
Les gars, mais payez ce que vous avez en ligne. Payez ce que vous avez en ligne. Payez la musique. Payez... Ah, il y a un petit chat à ta fenêtre. Payez ce que vous avez en, payez ce que vous avez en ligne. Payez pour acheter, pour de la vidéo, pour de la création en règle générale. Parce que derrière, c'est du talent qu'on mobilise. C'est des gens qu'on fait travailler. Et pour moi, c'est l'essence des choses. Mais je repense à ce qu'a fait de génial Microsoft à la fin des années 80, au début des années 90, d'équiper tous les ordinateurs avec leur environnement, avec leur OS, avec leur suite Office embarquée. Et du coup, ça a créé aussi cette culture du gratuit, du normal, puisque en fait, les coûts de l'OS et les coûts de la suite Office, ils étaient dans l'achat de la machine. Et on a pris l'habitude de penser que même un traitement de texte, il devait être gratuit. Et moi, je te rejoins, j'ai pas grand-chose. J'aurais aimé ne pas être d'accord avec toi, Jean, mais bon, tout le monde sait que je suis dénué d'esprit critique, d'une, et de deux, de toute façon, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu as dit.
Si, il y a Régis qui veut.
Oui, oui, moi, je vais me faire quand même un peu l'avocat du diable, pour le coup, dans ce que tu dis, Fabien, c'est que le côté, les suites Office sont intégrées dans l'ordinateur, c'est aussi vu un peu comme de la vente forcée, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont... Ils vont aller chez les fabricants de machines et pousser à fond pour que ce soit dans leur machine, mais c'est invisible pour le consommateur, mais c'est un jeu de dupe, quoi, parce que c'est quand même c'est de la vente forcée, quoi. Et du coup, pour le coup, tu mets le doigt dedans en ayant l'impression que c'est gratuit, puis finalement, on voit bien que maintenant, 10, 15 ou 20 ans après, ces suites-là, il faut payer tous les mois pour les avoir, donc... Il y a quand même un jeu de dupe à faire croire au départ qu'il y a le côté gratuit. Une fois que tu es accommodé à ces outils-là, ben, tu n'as plus trop le choix, quoi. En tout cas, la plupart des gens n'ont pas envie de faire l'effort de passer à une autre.
Mais tu vois, pour illustrer, je repense à quelque chose d'assez récent et qui va parler, aux auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois, ils ont été touchés dans leur chair. C'est le passage au payant de chez Padlet. Là où on a les collègues du secondaire qui se sont tous mis en masse à utiliser Padlet, et pour cause, parce que c'est une solution qui est particulièrement adaptée à la mise en place de séances en appui sur le numérique avec un outil qui est extrêmement affordant, je pense. Et du coup, ça passe en payant. Et là, quelle a été la réaction de la plupart des utilisateurs de Padlet enseignants en France ? Est-ce que ça a été de dire « Ah, je vais être obligé de mettre la main au porte-monnaie » ? Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est « Allez, on cherche une alternative gratuite à Padlet. »
Complètement. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet édito coup de gueule. C'est à force d'entendre les collègues, parce que ça fait un certain temps que je suis dans mon bahut et voilà, on a tous des habitudes. Et puis, à un moment, y a un système économique qui change. C'est ce qui fait que soit on achète, soit on n'a plus l'argent et il faut avoir autre chose. Et là, on a, je trouve encore aujourd'hui, une quantité assez incroyable de collègues qui n'ont pas conscience en fait des enjeux qu'il y a derrière le développement, parce qu'on est éducation nationale, et bien on est gratuit, on coûte, enfin c'est plus compliqué que ça, mais on coûte rien. Non mais t'as pas le parent qui est là avec son portefeuille en train de donner ton salaire, et donc tout ce qu'on fournit, voilà, on le fournit. Donc, il faudrait que nous, on ait des outils aussi qui soient tout aussi gratuits, entre guillemets. Et c'est plutôt bienvenu que tu rigoles, Fabien, parce que ça montre bien l'absurdité de ce que je viens de dire. Or, quand je dis que l'enseignant voudrait qu'on lui fournisse tous ses outils gratuitement, c'est exactement la même absurdité. Mais là, on n'a plus envie de rire. On ne comprend pas pourquoi il faut rire.
Mais là encore, en fait, je me demande si on n'est pas au milieu de, j'allais dire, de deux problèmes distincts. C'est-à-dire que moi, j'entends deux principes sous-jacents à ce que vous dites. Il y a un principe, c'est que tout travail mérite salaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent derrière ces solutions et qu'au bout du compte, ça mérite d'être payé. Mais il y a aussi un autre principe qui est derrière le credo, j'allais dire, des gens qui justement prônent plutôt le logiciel libre, qui est de dire que on ne paye, au moins on peut se poser la question de savoir si derrière les logiciels payants on paye que le travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi, faut pas oublier que derrière qu'il y a des entreprises qui ont d'autres, enfin tu vois, l'intérêt du bénéfice, du capital, etc. Et je pense que c'est dans cette espèce de ne pas confondre, voilà. c'est pas parce que je suis pro logiciel libre que je dis un jeu générique, parce que moi en l'occurrence je pense que j'ai de leçons à donner à personne sur le sujet, mais c'est pas parce que je suis pro logiciel libre que je dis pas que le travail mérite un salaire, mais c'est peut-être que j'ai un regard un peu critique sur la mesure dans laquelle je paye certaines solutions qui peut-être que, là encore c'est normal qu'une entreprise fasse un peu de bénéfice, mais là on parle de certaines entreprises qui en font certainement plus que de raison dans une certaine mesure, donc c'est, ouais, moi c'est un peu là-dessus que je
suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Phi. Enfin, si on prend ce que tu dis, il y a ce côté extrême pro logiciel libre, justement, qui fait que souvent on a cette vision stéréotypée de le pro logiciel libre, c'est quelqu'un qui dit le payant c'est les méchants, le logiciel libre c'est les gentils. Donc faut aussi effectivement prendre garde à pas tomber là-dedans. Et enfin, moi il y a certaines suites aussi que je vois qui sont beaucoup trop chères, etc. J'ai préféré chercher une alternative payante, même si j'en connais des gratuites, parce que j'en utilise des gratuites, mais de chercher une alternative payante pour aller au bout de l'utilisation que je veux en avoir au niveau interopérabilité des logiciels et pour avoir un juste prix. En fait, voilà, c'est ça. Je cherche à avoir un juste prix par rapport à ce que ça peut m'apporter et à ce que ça peut me coûter.
Je trouve que c'est la bonne position, en fait. J'aime bien cette position de ligne de crête où chaque chose a son prix et il faut à chacun d'avoir sa conscience. J'ai juste envie de dire, pour clore cette chronique, Jean, je crois que les libristes t'ont envoyé un chat noir sur le rebord de la fenêtre, méfie-toi. Hein, parce qu'il est là et il t'a à l'œil depuis le début de ta chronique, ça fait un peu peur.
Oui, c'est mon chat.
Il s'appelle comment, le chat ?
Le chat, il s'appelle Ghibli, et je sais qu'on dit Ghibli, mais c'est voilà, on l'a appelé Ghibli.
On dit un GIF ou un GIF ?
Bah, bienvenue à
un GIF animé.
Un GIF.
On est pile au milieu du guet, j'ai envie de dire, et comme de par hasard, c'est l'heure de la récré de Papa, à quoi tu joues ?
Papa, à quoi tu joues ?
Papa, à quoi tu joues ?
Eh, papa, à quoi tu joues ?
Ça y est, depuis le temps que Fabien me demande une petite récré empreinte de 12 embruns de la fin des années 80. Today is the day. Pour oublier un peu tous les tracas de la vie quotidienne, je vais vous conseiller aujourd'hui The Messenger, que tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans lèvent la main. Qui d'entre vous se souvient avec tendresse d'un jeu d'aventure plateforme qui s'appelait Shinobi ? Eh bien, en voilà son digne successeur. The Messenger vous fera vivre l'aventure d'un jeune ninja un peu feignasse, hein, qui n'aime pas particulièrement les cours d'histoire de son village. Son village, justement, est une sorte de dernier bastion de l'humanité, le monde étant en proie à l'invasion démoniaque. Une prophétie annonce la venue un jour prochain du héros de l'Ouest qui apportera la salvation. Un jour que notre ninja faisait encore l'école buissonnière pendant ses vacances apprenantes, les démons attaquent le village et le héros de l'Ouest apparaît. Il donne alors un parchemin à notre ninja qui devient alors le messager. Il devra alors partir délivrer le message à celui qui en aura besoin. The Messenger, c'est un jeu qui est fait avec des graphismes 8 bits de l'époque et une musique très similaire également à ce que pouvait produire la fameuse Master System. Alors bon, quel est l'intérêt de refaire un jeu de cette époque aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, la maîtrise. Aujourd'hui, ce type de jeu a été largement maîtrisé et quand on maîtrise quelque chose, on peut s'amuser à se surpasser et à ajouter tout un tas de choses pour apporter la plus-value désirée. Des plus-values, il y en a bel et bien. Dans l'aspect technique, tout d'abord, The Messenger est un exemple de jouabilité. Vous vous souvenez de l'exigence bien trop élevée de l'époque, hein ? On n'avait pas le choix, hein, on avait que ça, il fallait s'y conformer. The Messenger réussit le défi de proposer un gameplay accessible, précis et exigeant. Accessible car on pourra tout à fait profiter de l'aventure avec les techniques de base proposées par le jeu. Exigeant car, tout au long de l'aventure, des défis sous forme de pièces à ramasser vous mettront à l'épreuve en obligeant à utiliser toutes les techniques de déplacement, de double, triple, quadruple saut, plané, calé au millimètre. Mais tout le sel du jeu réside dans sa narration et ses personnages superbement écrits. Un jeu qui casse régulièrement le quatrième mur pour venir chatouiller nos références à des cultures de tous horizons. Jeux vidéo, bien sûr, mais aussi cinéma, tradition, contes, pop culture, etc. Des personnages qui passent leur temps à se moquer les uns des autres, à jouer avec les codes et à tourner en dérision le jeu lui-même. On en est au point où chaque ligne de dialogue est attendue et quand on arrive au magasin, la déception est présente quand aucun dialogue supplémentaire n'est disponible. La conception du jeu lui-même est un hommage à la technique en constante évolution de l'époque et tout s'entremêle dans un ballet d'une cohérence folle tout en restant dans un absurde au goût très rétro. The Messenger, c'est une vraie pépite qui vous redonnera les sensations d'antan et en y ajoutant la modernité avec sa narration extraordinaire et son lot de surprises évidemment que je m'interdis bien de vous dévoiler. Il est disponible sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One pour environ une vingtaine d'euros. À noter qu'il existe un contenu additionnel gratuit pour prolonger le plaisir. Allez, bon jeu à toutes et à tous et n'oubliez pas quand même de profiter du soleil.
Oh, joli. Est-ce qu'il y a une version libre du jeu ou pas?
Mais non, elle n'est pas libre.
Joli. Ah, moi, tu m'as fait pleurer des larmes de bonheur. Là. Je regardais en même temps le teaser qu'on vous mettra dans les notes de l'émission que tu nous as gentiment glissé. Ouais. C'est très, très beau et c'est rigolo parce que j'allais te poser les questions. Parce que pour qu'on vous donne un petit peu d'éléments de cuisine interne, Jean ne nous communique rien à l'avance. On n'a pas les textes de ses chroniques, on n'a rien.
Absolument.
Il veut garder la fraîcheur du commentaire. Et c'est vrai que c'est très, très beau hein, pour les nostalgiques comme moi du 8 ou du 16 bits.
J'avais mon micro éteint, pardon. Je disais merci, Jean. Et en une phrase peut-être, si on est fan de jeux, où est-ce qu'on retrouve papa, à quoi tu joues et tous ces jeux?
Ah oui, j'oublie à chaque fois. Eh bien, on retrouve notamment ce jeu dont j'ai fait état dans le dernier épisode sur le site papapodcast.fr où on retrouve tous ces podcasts avec plein de jeux, avec des actus sur le jeu vidéo et des bons plans pour autre chose et plein de choses. Si vous voulez apprendre des choses aussi sur le monde du jeu vidéo, c'est là aussi que vous pouvez aller.
Et tutti quanti, comme on dit en Espagne. Allez, on passe à la deuxième partie de l'émission.
Institutionnel.
Troisième dossier, c'est la petite voix que vous venez d'entendre, c'est Fabien Aubard, le roi du
Bobard,
on
a dit qu'on ne la faisait pas celle-ci en direct. Mais je vais vous parler, je ne t'en veux pas Régis et les garçons, je vais vous parler questionnaire. Cette année, en répondant à ce questionnaire d'une dizaine de minutes, c'est vous qui programmez les sujets à débattre lors des états généraux du numérique pour l'éducation qui se tiendront à Poitiers les 4 et 5 novembre 2020. C'est sur ces mots que s'ouvre le questionnaire de la plateforme de la grande consultation en vue des états généraux du numérique pour l'éducation, reprenant les termes utilisés par notre ministre dans une courte vidéo d'introduction. Alors autant vous dire tout de suite les garçons que l'annonce de la tenue de ces futurs états généraux le 5 avril dernier en pleine crise du Covid par le ministre Blanquer lors de son passage chez Ali Badou m'a laissé quelque peu dubitatif. Dubitatif parce que dans ma courte carrière de modeste acteur du monde de l'éducation, c'est pas la première mandature qui propose sa grande messe du numérique pour l'éducation et que l'exemple le plus récent porte encore les stigmates d'une adhésion toute relative de la part des agents de terrain. Dubitatif parce qu'il était difficile de ne pas entendre dans cette annonce du ministre Blanquer une réponse aussi solutionniste que politique, voire quand même un petit peu opportuniste. Dubitatif enfin parce que ce que laissait poindre cette annonce, c'est la réduction du numérique éducatif à une espèce de pis-aller pédagogique visant à limiter les effets d'un confinement qui, par la force des choses, ne peut que proposer une version dégradée d'un enseignement présentiel qui, lui, est noble, entier et humain. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, j'attendais avec impatience l'ouverture de la plateforme support qui allait nous permettre de participer, de prendre part à cette grande consultation autour du numérique pour l'éducation, version Covid Jean-Michel Blanquer. Et les surprises, mais aussi les enseignements que la forme, comme les contenus de cette consultation, allait pouvoir nous réserver. J'ai l'impression vraiment de faire cette chronique comme si je lisais les trois brigands à une classe de moyenne section. commençons par la forme, les garçons. Cette plateforme est proposée par une société qui s'appelle Eloquent, qui est une société spécialisée dans le suivi et la relation client, n'a aucune raison de perdre l'utilisateur lambda tant elle s'appuie sur les usages et l'ergonomie habituelle. Là, c'était ma petite phrase Jean-Noël. Elle ne surprendra pas, d'autant plus que la consultation reprend les mêmes mécaniques que la consultation lancée par le Centre de recherche interdisciplinaire à l'hiver 2015-2016 en vue de la production du rapport de François Taddeï sur la société apprenante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette consultation, peut-être y avez-vous participé vous-même. Moi, c'était le cas. Alors, dans la consultation qui se présente à nous aujourd'hui, en vue de la préparation de la rencontre, des rencontres de novembre, il y a 5 catégories qui structurent et la consultation et la plateforme. Donc, en 1, un égal accès au numérique pour tous, slash les questions de fracture numérique. En 2, travailler ensemble autrement, la culture numérique professionnelle commune. En 3, la gouvernance et l'anticipation. On a reglissé un petit coup de Covid, me voici. En 4, un numérique responsable et souverain. Bah, c'était un petit peu le sujet en sous-texte de la chronique de Jean. Et en 5, enseigner et apprendre avec le numérique. On désespérait de le voir apparaître. Ces 5 catégories vont permettre aux participants de faire des propositions autour desquelles on pourra échanger, favoriser pour mettre en exergue ce qu'on estimerait être des bonnes idées. Ces 5 grandes catégories sont elles-mêmes divisées en 2, 3, parfois 4 sous-catégories. Après avoir diagonalisé les différents espaces d'échange présentés en mode Kanban sur cette plateforme, je suis assez frappé par la ressemblance entre les retours qui avaient été collectés à l'époque par les équipes de François Taddeï et celles que j'ai pu à date avoir sous mes yeux. Alors, j'ai comptabilisé à la louche environ 250 propositions qui récoltaient chacune entre 1 et 2 commentaires. Et j'ai identifié en gros une vingtaine de participants actifs. Mais il y a très peu de temps que cette plateforme a été mise en ligne. Gageons qu'il y aura une inflation de commentaires et de propositions. Alors, côté questionnaire, parce que là, je vous ai parlé des échanges, il y a aussi un petit onglet qui est dédié aux échanges territorialisés. Et puis, il y a ce fameux questionnaire. Alors, côté questionnaire, qui, dans sa mécanique, précéderait logiquement l'espace d'échange ou en tout cas les propositions dont je vous ai parlé tout à l'heure, il balaye les 5 mêmes thématiques avec des questions à choix multiples où il est demandé de se prononcer sur des affirmations qui, j'ai trouvé, était assez large concernant la formation, l'équipement, l'accès à des ressources et des services en ligne. Les questions, elles sont plutôt bien pensées et pour cause. Je soupçonne nos amis de la DNE d'avoir rédigé ces questions puisque le directeur de publication du questionnaire et de la plateforme n'est autre que Jean-Marc Mériot qui est le directeur du numérique pour l'éducation. Alors, je regrette pourtant le fait de ne pas pouvoir répondre autre à ces différentes questions. Mais c'est peut-être du fait de la mécanique dont je vous ai parlé, qui est assurée par l'espace d'échange. Et surtout, je regrette l'absence de propositions concrètes où on aurait pu choisir. C'est dommage que ce type de consultation ne fonctionne pas en mode pièce à casser, qui pourrait s'avérer peut-être plus mobilisateur et plus fertile, parce qu'on nous demande, nous, petits profs, de réfléchir à des choses auxquelles des gens sont payés, sont experts pour réfléchir. Du coup, les garçons, je vous ai proposé à vous, mais je vais le proposer aussi aux auditeurs, une adaptation du questionnaire dans lequel je me suis risqué, à vrai dire, je me suis amusé à glisser quelques propositions, elles-mêmes inspirées par les affirmations à spectre large du questionnaire d'origine. Donc, je le mettrai bien sûr dans les notes de l'émission. Je vous invite à répondre en masse à ce questionnaire et puis on le glissera à la DNE derrière. Je vous passe donc les détails des autres fonctionnalités et remarques concernant la plateforme, puisque dans cette nouvelle formule de Nipédu, vous l'aurez bien compris, le temps nous est désormais compté. Je ne peux pas m'empêcher malgré tout de craindre que, comme les contenus de cette plateforme et comme la mécanique générale de la consultation, les futurs états généraux du numérique pour l'éducation de cet automne ne révèlent aucune grande surprise concernant le rapport de notre école à sa version numérique. Tout au plus, il y aura une validation ou une confirmation d'une vision et d'une approche qui est plutôt adéquationniste de cette dernière au contexte actuel. On fait du numérique éducatif pour pallier un confinement pédagogique. Donc ça ressemble quand même, les garçons, un petit peu à un scénario écrit d'avance qui s'attacherait peut-être aux problématiques réelles qui bloquent le développement d'un numérique qui devrait s'attacher aux problématiques réelles qui bloquent le développement d'un numérique pour l'éducation au service du mieux enseigner et du mieux apprendre. Mais c'est peut-être déjà un bon début et j'ai envie de dire encore une fois un bon début.
Moi, la première remarque, puisque tu parles d'adéquationnisme, et il y a peut-être aussi dans, dans tes dernières remarques, un côté aquabonisme à répondre à ce questionnaire. Ça me fait penser au... Je ne sais plus quand ça a eu lieu, mais les fameux cahiers de doléances, vous savez, suite à tous les mouvements des gilets jaunes, etc. Il y a eu des cahiers et des milliers et des milliers de remontées. Et puis, on n'a jamais su, finalement, ce qu'il en était, en tout cas à ma connaissance. Hein. Et c'est peut-être... Alors, on peut toujours le voir des deux côtés. Il y a toujours le côté yin et yang de se dire... Tu dis, oui, pour l'instant, il y a très peu, effectivement, de propositions qui sont faites. On imagine bien que ça va monter en puissance jusqu'à l'automne, à la date des réunions physiques, pour le dire comme ça. Je ne saurais pas donner ma posture là, en ayant fouiné un petit peu sur le site aujourd'hui sur oui, est-ce qu'on y répond pour être justement de plus en plus adéquationniste à la situation post-Covid. Et puis, je n'ai pas envie non plus de tomber dans l'aquabonisme à se dire ça va mener à rien. Je ne sais pas quelle est votre position, Jean ou Jean-Phil, à vous.
Ouais, non, c'est ce genre de... Enfin, je suis un peu comme toi, Régis, ce genre de collecte d'avis. Enfin, pour moi, c'est un peu déjà biaisé parce que on peut pas donner vraiment son avis. Il faut se prononcer sur ce qu'on trouve au pire, entre le pire et le moins pire. Des fois, on voudrait d'autres solutions alors qu'elles y sont pas. Après, on peut comprendre que de l'autre côté, on peut pas non plus ouvrir à tout. Mais de fait, moi, ce genre d'initiative me laisse toujours un arrière-goût de on voudrait bien faire, mais on peut pas le faire autant que vous voudriez. Et donc, j'ai du mal, du coup, à adhérer à ce genre de choses, en fait.
Moi, clairement, pareil. Enfin, mais je pense que pour le coup, j'aurais tendance à alors. Moi, je crois que j'y vois peut-être même encore moins de bonne volonté que ce que vient dire Jean, quoi. Des fois, j'ai l'impression que c'est souvent un peu un moyen de se dédouaner. On sait ce qu'on a envie de faire, mais on va faire une consultation parce que c'est une étape nécessaire qui va calmer les foules. Alors là, je parle plus généralement et pas que en éducation. Mais en même temps, voilà, quand je dis ça, je sais que c'est... Enfin, que quelque part, j'aurais aussi envie que... Enfin, paradoxalement, j'aurais aussi envie d'être consulté, mais ouais, je suis dans cette espèce d'entre-deux, en fait, un peu comme disait Régis, quoi, le « à quoi bon ?» et un peu comme disait Jean, de dire « ouais, en même temps, quand on pose les questions, j'ai l'impression qu'on ne me pose pas les bonnes, quoi. » Donc, je sais pas, mais en même temps, je vais le dire comme ça, j'aime pas mon avis, dans le sens où je trouve que c'est difficile de se plaindre si on donne pas son avis, en fait, même si on nous laisse pas le spectre suffisant pour le donner. Donc ouais, je pense que d'instinct, c'est une démarche dont j'aurais envie de me tenir à l'écart, et en même temps, je pense que c'est pas la solution non plus, donc voilà, c'est...
J'aime bien ce que tu as dit, Jean-Phil. Moi non plus, j'aime pas mon propre avis. C'est ça, ce truc d'avoir le cul entre deux chaises. Et en même temps, quand même, pour avoir fouiné un petit peu, alors il y a ce questionnaire qui, j'étais un petit peu sidéré qu'il soit si court. Il y a très peu de choses. On pourrait s'attendre pour une consultation autour du numérique de quelque chose de beaucoup plus robuste et plus, ne serait-ce que dans la plus long, quoi, avec plus de contenu. Mais il y a quand même des parties forums où on peut faire des propositions concrètes et rebondir les uns sur les autres. C'est de ce côté-là où je me pose la question de comment ces contenus-là vont être récoltés, agrégés, concaténés pour qu'il en ressorte quelque chose. Évidemment, du questionnaire, on va pouvoir lui faire dire un peu ce qu'on veut, c'est plus dans les propositions concrètes, mais là il faudrait vraiment j'aimerais pas que les gens qui écoutent l'épisode soient dans l'aquabonisme. Pour qu'il y ait quelque chose, il faudrait y participer en masse, même si on n'est jamais sûr de ce qu'il en est fait derrière.
Ouais, d'autant qu'en plus t'as raison, si les gens qui recueillent les réponses donnent les moyens d'analyser les propositions ouvertes, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des belles choses qui puissent en sortir. Voilà, si l'espace, j'allais dire, si un espace d'expression ouverte est vraiment laissé et que les gens peuvent y aller à leur bon cœur, potentiellement, c'est clair que c'est peut-être plus... Enfin, on peut avoir peut-être un peu plus d'optimisme que le simple questionnaire à question fermée, quoi.
Et les garçons, moi, j'aime bien cette conclusion en forme d'optimisme pour cette consultation et pour ces états généraux à venir. On peut inviter les poditeurs à aller partager leur vision du numérique éducatif sur la plateforme. Et puis, on croise les doigts. Et puis, on se dit peut-être qu'on aura la chance d'être invité à cette consultation, en tout cas à l'événement qui se tiendra à Poitiers. Puis, on aimerait bien vous faire un retour de ça. Tiens, ce serait bien, Régis, si quelqu'un de l'ADNE nous entend, invitez-nous. On ira avec plaisir à Poitiers pour couvrir l'événement.
Je vous propose qu'on passe à la quatrième chronique, et là on n'est pas dans l'adéquationnisme, on n'est pas dans l'aquabonisme, on n'est pas dans le isme, puisqu'on est on est dans le jean-fisme.
Après le jansénisme, le jean-fisme.
Histoire de l'éducation, sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, sciences cognitives, la recherche.
Alors écoutez les garçons, en ce qui me concerne, en fait moi ce soir j'avais envie de vous entendre un peu sur la réflexion qu'on a juste eu la place d'initier dans la dernière rubrique qu'on a publiée au sein de nos bien-aimés cahiers pédagogiques. D'ailleurs, petite parenthèse, au passage et pour rappel, chers poditeurs, abonnez-vous aux cahiers pédagogiques, les cahiers ont besoin de vous, c'est important. Parenthèse fermée. En deux mots, dans cette rubrique, on y disait que jusqu'à la très récente crise sanitaire, qu'on ne nomme plus, n'est-ce pas, le numérique éducatif avait largement, à mon sens, en tout cas, raté sa révolution. Pourtant, maintes fois annoncée depuis maintenant 30 ans. Et l'erreur commise, en tout cas, enfin, une des erreurs commises, à mon sens, la principale, a été de croire que le numérique apporterait principalement sa pierre en ayant un effet direct sur les processus, cognitifs, les processus d'apprentissage. Or, le cognitif, en fait, a sa manière propre de fonctionner. Il n'a pas attendu les ordinateurs, il n'a pas attendu les tablettes. Et ce n'est pas parce que nous avons une très belle innovation technologique qu'elle est adaptée à ce fonctionnement. Et c'est bien face à un besoin pédagogique et des processus cognitifs clairement identifiés que l'on pourra faire appel à un outil idoine. Des outils et dispositifs numériques développés dans le bon sens, dans ce sens-là, il y en a eu, bien évidemment. Mais auquel cas, et c'était l'argument du papier en question, il ne s'agit pas alors d'une révolution, mais bien d'une évolution. Mais en perdant une bonne partie de notre temps à essayer de faire entrer des enfants triangles dans des supports numériques carrés, on a aussi omis de voir que le numérique pouvait aider ailleurs, et en l'occurrence, sur la gestion de classe, me semble-t-il. Pour le coup, son invention à elle, la classe, fut une révolution instantanée, c'est-à-dire que cognitivement, apprendre seul ou à plusieurs est fondamentalement différent. Mais cette classe, elle n'est pas sans limite pour autant. Alors, dans un contexte d'inégalité croissante au sein d'un système dont l'égalité est pourtant la devise nationale, aucune réflexion institutionnelle n'est menée relativement à son hétérogénéité. J'y suis arrivé. Inhérente à la nature même de ce qu'est une classe, les enseignants n'ont bien souvent pas d'autre choix que d'accepter que des élèves s'ennuient d'avoir compris trop vite, quand d'autres galèrent de ne rien comprendre et que seulement une part suive au bon rythme. Et au milieu de notre idéal républicain, pas simple de proposer de donner plus à certains et moins à d'autres. Et justement, si le numérique nous permettait non pas de donner plus ou moins, mais de donner différemment. Et si la crise sanitaire vécue nous avait montré un chemin, non pas à l'extrême qu'elle nous a imposé, mais quelque part, pas très loin de l'école d'avant. Si la mise à distance partielle, répartie et scénarisée grâce au numérique d'une partie de la classe, celle qui a compris la séquence en cours, pouvait permettre à tout le monde de mener ses apprentissages d'une manière plus adaptée à ses besoins. Plusieurs défis alors. Celui de l'équipement, bien sûr, et qui devrait être à la charge de l'institution, à mon sens. Celui de la scénarisation. Quand est-ce qu'on met des élèves à distance au sein de la séquence? Et dans quelle mesure de temps? Si les choix sont faits pour ne pas pénaliser les apprentissages, voire même plutôt pour les faciliter, qu'en serait-il des impacts sur leur vie scolaire à ces élèves? Le défi des critères aussi, pour le choix des élèves que l'on éloigne. Pourquoi pas, à chaque séquence, à l'issue de la présentation des éléments théoriques et d'une première salve d'exercices en classe qui servirait alors d'évaluation diagnostique. Et enfin, le défi de l'accompagnement de ces élèves autonomes. En fonction des objets d'enseignement, les retours sur les travaux pourraient être pris en charge par la machine. Sur des choses plus complexes, la vérification et les retours par les enseignants pourraient être asynchrones, puis à la charge des élèves d'en prendre connaissance ensuite. En bref, rien de systématique dans ma proposition, il faudrait que les choix soient adaptés au contenu et au niveau des élèves bien sûr. Mais rien non plus à la carte, simplement des scénarios pédagogiques construits, partiellement variables en fonction des difficultés rencontrées par les élèves, pour un même temps de travail pour tous. N'existe-t-il pas un beau potentiel dans cette école d'après? Qu'en dites-vous, chers amis.
Voilà, mais c'est un vrai beau prolongement de cette émission de 2 heures du mois dernier. Donc on peut repartir sur une heure de téléenseignement. Moi, je prends juste la parole rapidement, les garçons, pour vous dire que moi, je trouve que dans cette évolution qui n'est pas une révolution, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire dans le phénomène de cette émergence du numérique éducatif forcé, c'est le fait que bon nombre d'acteurs se sont rendus compte que le numérique éducatif pouvait s'adapter à des expressions pédagogiques diverses et que ça n'était pas juste le bras armé d'une pédagogie socio-constructiviste ou d'une pédagogie de projet, mais qu'on retrouvait dans des modes d'enseignement dits transmissifs, voire explicites, un intérêt à l'utilisation et à l'usage du numérique. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'on arrête avec ce nivellement des expressions pédagogiques. Il n'y a pas une pédagogie qui serait meilleure qu'une autre. En tout cas, moi, je me refuse à y croire. Et puis quand tu parles, Jean-Philippe, je me disais qu'on va envoyer ce petit texte, on va le glisser, je vais faire des copier-coller, je vais le mettre sur la plateforme de consultation pour les états généraux du numérique éducatif. Et je me dis, dans un établissement ou dans une équipe de cycle, avoir, et là je pense à notre ami Thierry Vulpilière avec sa société dont le nom m'échappe, mais que Régis va retrouver rapidement, qui développe des petits... Ah, tu l'as Régis, mais t'as pas de son. Ah oui, c'est parce qu'il parle à côté. Évidence B, merci Régis. Donc Évidence B qui développe des petits assistants pédagogiques en intelligence artificielle avec, je sais pas, une espèce d'ingénieur pédagogique type Jean Noël dans chaque établissement qui pourrait configurer un petit LMS ou un petit CMS sur commande des enseignants. Et on pourrait arriver à exactement ce que tu décris, Jean-Philippe. Moi, ça me semble pas très compliqué à faire, mais peut-être que je suis déjà sur mon petit nuage, sur mon petit cloud.
Je suis d'accord, Fabien. Moi non plus, ça me semble pas très compliqué à faire. Beaucoup de propositions qu'a faites Jean-Phi sont déjà, moi, des choses que je mets plus ou moins en place, que j'avais déjà mis plus ou moins en place depuis déjà quelques années. Avec cette ENT dont j'ai déjà parlé dans les précédents numéros. Mais effectivement, ça nécessite, comme tu l'as dit, Fabien, un Jean Noël dans chaque établissement. Et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je dis ça dans le sens où, et je pense qu'on en prend la bonne direction, où il faut que les gens, les pratiquants, les imaginateurs de séquences, de travail, s'empare de l'outil numérique pour se rendre compte que cet outil, il est adaptable. On n'est pas enchaîné à une pratique de cet outil, mais c'est nous qui allons le détourner, le pousser dans ses retranchements pour dire, voilà, moi je veux faire ça, fais ce que je veux faire et je vais trouver les moyens de le faire, ou alors je vais me trouver un Jean-Noël qui va me dire comment le faire.
Moi, je vais aller sur un autre terrain, le deuxième point, Jean-Phi, sur la scénarisation, quels élèves choisir, ça me fait penser pour le coup à l'article 34 et au rôle des cardis, qui pourrait vraiment là aller identifier des terrains sur lesquels permettre ces expérimentations, de dire à l'année, on en avait déjà parlé dans un épisode, je ne sais pas, un vendredi par mois, telle classe ou tel établissement serait en format enseignement à distance. Il y aurait en tout cas... Il y a toutes les clés, elles existent pour faire ces expérimentations-là via cet article 34 pour aller au plus loin de ce qu'on peut aller, j'ai envie de dire, sur qui reste à la maison, comment il reste, comment on gère l'emploi du temps. En tout cas, les outils sont là pour tenter. Ce serait vraiment intéressant pour le coup de voir à la rentrée, d'aller fouiner dans la masse de fiches Innovatech pour voir si ces expérimentations ont lieu. Parce que j'imagine bien qu'il y en a qui vont s'en saisir quand même.
Et puis d'autant que, si tu veux, le principe de base de dire on réduit temporairement, enfin sur des temps courts, l'effectif de la classe pour que l'enseignant puisse passer plus de temps avec les élèves qui ont le plus de difficultés, en fait c'est des dispositifs, moi je les ai vécus en tant qu'assistant d'éducation, j'étais assistant d'éducation rattaché à un collège mais exerçant en école primaire, et c'était exactement ça mon rôle, c'est-à-dire que j'accueillais des tiers de classe ou des demi-classes, des élèves les plus en facilité, parce que justement j'étais pas l'enseignant, j'étais pas la personne, tu vois, et qu'en fait c'était plus facile de m'occuper, enfin tu vois, de suivre le travail fait par ces élèves-là, et en fait au bout du compte, voilà, c'est une idée, j'allais dire, qui est vieille comme le monde au bout du compte, mais on aurait potentiellement la possibilité de, tu vois, de la mettre en place de manière un peu plus large, et puis à moindre frais, quoi, c'est-à-dire pas à frais humains, et puis encore moins avec des emplois précaires. Ouais, ça c'est dit.
Ouais, je pense qu'on... il a le sourire parce qu'il a dit... Il a dit voilà. Non, mais écoute, pour moi, c'est, ça clôt en beauté sur ce... Ouais, voilà, il y a Jean qui fait le bon geste du petit point en avant. Ça clôt en beauté cette quatrième chronique. Et je vous propose qu'on file vers nos inspirations, nos coups de cœur et nos coups de gueule.
Inspiration.
Inspiration.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Coup de gueule.
Coup de gueule.
Et ben qui veut ce qui... Ah, je vois que j'ai été mis en numéro 1 dans les notes de l'émission, donc je veux bien vous laisser me dire si vous choisissez la trilogie ciné ou la trilogie sport, avec une forte envie pour la trilogie sport, quoi.
Bah ouais, attends, c'est Régis qui nous parle de sport, c'est trop beau, ça.
Ouais, bah vas-y.
le sport, s'il vous plaît, les gars.
J'étais disruptif, moi j'étais sur le ciné, mais bon, je laisse.
Non, je vais vous parler de sport, notamment si Roland-Garros vous a manqué, je crois que c'est fin septembre, si je ne me trompe pas. Je sais que Fabien, il y a le Tour de France qui lui manque. Moi, c'est Roland-Garros qui me manque. Et donc... je vais vous faire un petit triplé. Je commence par un docu sur OCS. Je viens de résilier mon abonnement OCS, donc j'ai un peu éclusé les trucs que je voulais voir, qui s'appelle L'Empire de John McEnroe, L'Empire de la Perfection. C'est un docu un peu hallucinant qui a été tourné à Roland-Garros en 1984 par l'équipe technique là, de Roland-Garros, qui a filmé vraiment McEnroe sous tous les angles. Mais quand je vous dis sur tous les angles, il y a une caméra braquée sur lui en permanence, en fait, dans tout ce qu'il fait. Et derrière ça, il y avait la volonté de faire notamment des films pédagogiques sur ses gestes techniques. Et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup plus que ça, c'est-à-dire le combat de ouf de McEnroe contre lui-même quand il s'énerve, comment que ça le reconcentre. Enfin, on voit plein de trucs absolument passionnants. Donc si vous aimez le tennis et si vous aimez cette époque du tennis, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil. C'est vraiment un drôle de documentaire parce que c'est du 100% pure caméra sur McEnroe. C'est assez, assez fascinant. Le deuxième truc, je l'ai lu il y a longtemps, mais il m'est revenu en tête en préparant une trilogie autour du sport. C'est l'autobiographie d'Agassi, un peu aussi dans toute ma jeunesse, en tout cas la grande période d'André Agassi. Mais c'est surtout que c'est une autobiographie extraordinaire. Elle a été rédigée, alors pas que par lui, il a été aidé par quelqu'un dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui est prix Pulitzer. Mais... c'est hyper bien écrit sur le fond et sur la forme. C'est vachement percutant. Il y a le côté sans concession d'Agassi qui ressort. Alors évidemment, c'est une biographie, donc ça parle de tout. Il y a notamment son enfance qui est complètement folle là, avec son père qui, pour le coup, était un peu cinglé. Il lui faisait taper littéralement des millions de balles par an là, avec une espèce de machine. Vous savez, les machines à lancer les balles que eux appelaient le dragon. Et littéralement, il lui faisait taper des millions de balles par an, quoi. J'ai adoré certains passages, notamment les passages où il raconte les fins de match enfin, il décrit ça en fait comme des boxeurs, quoi. Comme un boxeur qui sort du ring et comment ils se retrouvent, les deux joueurs qui sont les ennemis jurés sur le terrain, mais comment ils se retrouvent dans les loges ensuite complètement sonnés et complètement éteints, quoi. Comme si c'était un match de boxe, on sent vraiment cette violence-là, quoi. Donc, et puis il y a toute la période, vous connaissez, hein, vous les gars, la période fashion, un petit peu de d'Agassi. Et pourquoi justement, enfin, il raconte, c'était absolument pas un côté fashion de sa part, c'était plus pour se cacher derrière quelque chose. Moi, j'ai découvert notamment qu'à toute cette période avec cheveux longs, en fait, c'était une perruque parce qu'il avait un cancer. Enfin, on découvre plein de choses et c'est hyper bien écrit. Donc, si vous aimez Agassi et cette période, c'est vraiment une super autobiographie, quoi. Et un dernier, parce que j'ai parlé de trilogie, le moins intéressant des trois, c'est un film sur OCS, c'est un biopic, Borg McEnroe, qui est bon, il n'est pas génial, mais ça permet de revivre cette époque-là, et notamment une fameuse finale de 1980 à Wimbledon entre Borg et McEnroe, et c'est super intéressant aussi de voir... La différence entre les deux joueurs, et les acteurs sont plutôt pas mal, même si on sent que s'il y a un petit côté téléfilm, mais c'est avec, comment il s'appelle, maintenant j'ai oublié le nom,
Shia LaBeouf,
que j'aime bien, bon c'est pas très grave, voilà Shia LaBeouf, qui est toujours extra dans ses rôles parce qu'il en fait souvent des caisses, et là je trouve qu'il est plutôt, il joue plutôt bien son McEnroe. Donc à voir la trilogie, on va dire la trilogie des années 80 de Roland Garros et de Wimbledon pour les passionnés, franchement à regarder de près, quoi. Voilà ma petite trilogie, les gars.
Superbe. Ça donne envie. Surtout, je t'avoue que moi, tu m'as bien tenté avec la biographie d'Agassi, l'autobiographie d'Agassi.
Une des meilleures biographies. Tu vois, j'aime bien les biographies ou autobiographies, pas spécialement de sportifs, mais aussi d'artistes. Celle-là est extraordinaire, quoi.
Ok, cool. Voilà, du coup, j'ai chopé le micro, je le garde. C'est à mon tour. Mon petit coup de cœur. Alors, écoutez, mon petit coup de cœur, en fait, contrairement à ce que j'ai dit hors antenne, je suis allé sur autre chose parce que j'y ai repensé pendant l'émission. Je vais sur un vieux film, alors quand je dis vieux, c'est 25 ans, hein, des années 95, mais que j'ai découvert en fait très très récemment grâce à un pote en fait dans lequel on s'est lancé à se faire découvrir nos films un peu cultes de notre culture cinématographique, donc de relativement des vieilles choses, et il m'a fait découvrir un film que je connaissais pas du tout, parce que c'est un style que j'ai pas du tout affectionné quand j'étais ado, et qui en fait je suis passé à côté de certaines choses, en l'occurrence donc plutôt le style horrifique, et donc il m'a fait découvrir, c'est le premier film qui m'a dit bah tiens, faut absolument que tu te mates ça, c'est un film de John Carpenter qui s'appelle L'Antre de la Folie. En plus bon, tout le monde connaît John Carpenter de nom, il y a certains de ses films qu'on connaît aussi de nom. Moi celui-là, enfin, en toute sincérité, je connaissais même pas son existence. Et en fait, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, en fait, je suis venu à l'horreur relativement sur le tard. Je me rappelle y être rentré en me disant « Ah, tout le monde dit que l'horreur, c'est souvent un bon moyen de parler de satire, enfin, de faire de la satire sociale, etc. » Puis je comprenais pas trop pourquoi. Bon, j'ai fini par le comprendre avec les années. Mais alors, ce film, on est vraiment l'archétype. Et pour le coup, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment assez bien réussi. Voilà, le pitch, c'est en gros... Un gars qui bosse pour des assurances qui est sollicité parce qu'il y a eu un accident, et donc il doit faire une expertise, et en fait il commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui se réalisent autour d'un auteur, les choses se réalisent comme dans les bouquins qu'il écrit, quoi. Et en fait je vous dis pas le twist final, mais c'est vraiment vraiment chouette. Alors bon, c'est un peu daté en termes de réalisation, d'effets spéciaux, etc., mais ça rajoute un peu au kitsch, ça rajoute un peu au côté justement satirique. C'était une belle découverte. Alors, je sais pas si certains d'entre vous voient le film, l'ont vu, l'ont aimé, l'ont pas aimé, mais en tout cas, moi, c'était une chouette découverte.
Vu il y a très longtemps, donc je me rappelle à peine de l'affiche du film, quoi.
Eh ben, écoute, à l'occasion, tu peux y rejeter un œil sans trop de risques, je pense. C'est pas mal.
Moi, je vais faire des tas de rebonds, les garçons, sur vos deux coups de cœur. John Carpenter d'abord, pour dire que moi, mon John Carpenter, c'est le New York 1997 avec Kurt Russell.
Oh oui.
Et ouais. Ah ouais, j'adore l'ambiance de ce film. C'est tellement mais du steampunk, mais post-apocalyptique, un truc un peu improbable. Et ça me permet de vous dire qu'il y a la quatrième saison de Blockbuster qui est revenue sur France Inter, et qu'il y a un Blockbuster dans je ne sais plus quelle saison qui est dédié à l'œuvre de John Carpenter. Donc réécoutez Blockbuster, il n'y a pas de Tour de France, mais il y a les Blockbusters de Frédéric Sigrist sur France Inter. Il faut tous les écouter. J'ai découvert Jojo's Bizarre Adventure. Aujourd'hui, j'ai écouté les Spice Girls. Enfin, Xena la guerrière, il y a 4 jours, c'est improbable, mais chaque émission est ouais, super riche, même si le titre donne pas envie. Régis a parlé de sport fiction, de sport série, de Formula One sur Netflix m'a fait regarder la série saison 2 F1, le truc improbable, parce que moi et la F1, c'est juste antinomique, et pourtant, c'est quand même une série assez extraordinaire, donc merci à Régis pour la reco. Et puis là, en ce moment, bah, du coup, j'ai pas de Tour de France, donc je regarde cette série consacrée à la team Movistar, un peu moins bonne que Formula One, mais si vous êtes en manque de vélo, ça pourrait faire l'affaire. Et puis comment ne pas finir cette chronique coup de cœur avec un coup de cœur que je dois à mon copain Nicolas Rallet, qui nous a fait jouer très récemment à un jeu qui s'appelle, et je regarde mon Jean parce que pour une fois que je parle de jeu, La Fiesta de los Muertos, le petit jeu de plateau où on s'amuse en version téléphone arabe à deviner des noms de gens morts. Voilà, donc un gameplay que moi j'ai adoré. C'est pas le jeu du siècle, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas ri comme ça, Régis.
Oh oui, clairement. Si vous avez l'occasion d'y jouer ou de l'acheter, ça ne doit pas être très cher. Je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes de soirée.
25 euros prix conseillé.
Voilà, moi je vais l'acheter avant de partir en vacances pour jouer en famille. On va bien se marrer, je pense.
Et tu sais que j'ai lu que les gens regrettaient que les noms des personnages ne soient pas très intéressants. Mais vous pouvez, sur des petites cartes, rajouter vous-même des noms de personnes mortes. Et c'est là où ça peut partir en vrille.
Total. Jean, à toi ?
Oui, alors moi, comme on était parti pour aller du côté obscur du numérique avec tous nos sortes de coups de gueule, là, j'ai décidé de prolonger ce côté obscur et de vous parler de Dark, une série Netflix, une série allemande Netflix qui vient de publier sa troisième et dernière saison. Donc, vous savez que c'est une série qui a une fin. C'est une série très très étrange, donc une série allemande créée par Baran Bo-Odar et écrit par, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Jantje Friese.
Je peux pas t'aider.
Bah, écoute,
j'aurais espéré que tu l'aies.
J'ai pas fait allemand LV2 alors. donc ça raconte, enfin ça commence comme ça, c'est la question n'est pas où mais quand, et on va très vite être confronté à des enlèvements d'enfants, donc des choses qui sont somme toute assez assez classiques dans des thrillers, assez classiques, sauf qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de très classique, puisque on va très très vite s'apercevoir que ces disparitions, en fait, elles sont répétées dans le temps, mais elles sont espacées de 33 ans. Et il y a une raison à ça. On va comme ça apprendre au fur et à mesure la vie des gens dans cette ville de Winden, ou Winden, comme vous voulez, qui ont beaucoup plus en commun que ce qu'elles peuvent paraître avoir de prime abord. Je meurs de ne pas pouvoir vous en dire plus et d'être plus clair dans mes propos, mais ce serait vraiment, vraiment un crime que de dire plus que ce que j'en ai à dire maintenant. C'est sur Netflix, donc il y a 3 saisons, il y a 26 épisodes en tout. Je vous conseille évidemment la VO.
Avec un petit bémol quand même sur cette série, et c'est que il faut en même temps avoir une solution de carte mentale et dessiner à côté pour pouvoir s'y retrouver. Et un deuxième bémol, c'est que si vous avez laissé trop de temps entre le visionnage des 2 saisons,
ah oui,
c'est dead.
Ouais. Nous, on l'a pris, la saison 2 était déjà finie, on a attendu juste quelques mois, en fait on a regardé les 2 premières saisons pendant le confinement et donc on a eu la 3e saison quelques mois plus tard.
Vive le binge-watching.
Je vous propose juste qu'on on en a parlé en début d'émission, enfin je crois, je sais plus, le petit jeu Nipédu, enfin le petit jeu, le grand jeu Nipédu qui vous permet de gagner le gros précis d'ingénierie pédagogique d'André Tricot et Manuel Musial.
Très gros précis.
Ouais, le très gros précis, et très précis d'ailleurs, dont on vous parlait dans l'épisode précédent. Une question toute simple, allez, qui la pose?
Allez, j'y vais. Alors, cher poditeur, comment s'appelle le chat noir de Jean qui gratte à la fenêtre quand il dit du mal des logiciels libres
français? Framacha.
Voilà. Vous répondez par un tweet en mettant @nipedu, en mettant le hashtag #jenipedu tout attaché. Et puis, comme Isabelle va triner, vous pouvez remporter l'exemplaire qu'on a sous la main.
On avait dit qu'on finissait par un petit moment émotion, les garçons. Et voilà.
Ça y est.
On y est. Et Jean, je crois que tu n'y couperas pas. La parole est à toi.
Ouais, alors voilà, vous, depuis le confinement, vous m'avez accueilli dans les lives, et c'est pas faute de m'avoir invité hein, avant, moi c'était par faute de temps, et voilà, j'étais bien content de faire ces lives avec vous, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, voilà, la vie reprend son cours, mes 2 enfants prennent du temps, l'éducation prend du temps et tout ça, et donc c'est ma dernière dans le live de Nipédu, sauf si éventuellement un reconfinement pointé, éventuellement, hypothétiquement, le bout de son nez, et qu'on aurait encore des choses à dire là-dessus. Mais sinon, il y a quand même très très peu de chances pour que je revienne dans les lives. Mais je reste quand même le fournisseur officiel de récré de Nipédu, et ça, mes petites capsules vous accompagneront toujours.
Heureusement. On n'aurait pas supporté autrement. Ouais.
Je crois que tu as rassuré les poditeurs. Rassure-moi, tu pars pas en ayant lâché la bombe sur le libre en te disant que tu vas te faire massacrer dans Nipédu derrière.
Mais non, alors, vous avez pas écouté ma chronique. J'ai dit que le livre, c'était très bien. J'ai dit que le livre, c'était très bien. Je l'ai dit textuellement dans ma chronique. J'ai dit le livre, c'est très bien. Voilà, j'ai dit qu'il fallait pas leur demander la lune, c'est tout.
Je préfère qu'on finisse là-dessus. Merci pour la précision. quoi qu'il arrive, on retrouvera ta célèbre voix dans les récrés, donc on est rassurés.
Oui,
et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de prochain confinement, mais si jamais, on prendra la balle au bon. Les gars, on arrive au bout.
Je répondrai présent. Merci beaucoup.
on arrive au bout de cette émission avec cette formule d'été qu'on a testée. Donc, on verra ce que ça donne à la réécouter au montage. Mais j'ai l'impression qu'on s'est bien débrouillé.
L'autosatisfaction, c'est j'adore. Il n'y a rien de tel. En tout cas, on va mettre tout le monde en vacances. Hein. Jean, toi, on te met un petit peu à la retraite. Moi, j'annonce une retraite à la Michael Jordan. Ouais. Mais, et Jean-Phi, on va t'octroyer ton mois d'août. Pendant que Régis et moi, on va traîner nos guêtres, peut-être du côté de l'Ariège. S'il y a un autre confinement, ne nous guette pas entre-temps. Et puis, je sais pas, entre-temps, on peut souhaiter quoi, les gars?
Eh ben moi je la fais, moi c'est ma dernière, je la fais. je vous propose pendant toutes les vacances de garder la méga pêche. Yeah.